Okay, ce shiur est dédié à l'Ilui Neshama, donc l'élévation de l'âme de Michel Sarah Bat Esther Zichrona Livracha, de mémoire bénie. On va parler aujourd'hui un peu de ce qu'on appelle le Lashon HaKodesh. Le Lashon HaKodesh, littéralement, c'est la langue sainte. C'est la langue avec laquelle Dieu écrit la Torah. C'est la langue avec laquelle Dieu s'exprime. Dieu parle aux prophètes. À Israël, 48 prophètes et 7 prophétesses. Dieu leur parle. En quelle langue il leur parle? En français, en anglais, en allemand? En Lashon HaKodesh. C'est pas de l'hébreu. La Torah, on va dire l'hébreu moderne, ressemble à 99% à l'hébreu qu'il y a dans la Torah, à Lashon HaKodesh. Mais il y a beaucoup d'apports en hébreu moderne, qui sont d'apports étrangers, aujourd'hui en d'anglais, encore un peu même de français, de grec, d'araméen. La Lashon HaKodesh, la langue sainte, c'est celle qui est donc avant toutes ces langues-là, et celle avec laquelle donc la Torah est écrite, et Dieu s'exprime. Maintenant, qu'est-ce que nous prétendons? Nous prétendons que toutes les langues sont des langues de convention. Ça veut dire que si maintenant, on va dire, voilà, je prends ici, j'ai un stylo baguette télescopique, en français, baguette télescopique, d'accord? Maintenant, pourquoi on appelle cela baguette télescopique? C'est tout à fait arbitraire. On aurait pu utiliser d'autres sons pour dénommer cet instrument-là. C'est une convention. Les francophoniens, tous ceux qui parlent le français, ont une convention entre eux que cet objet-là est appelé dorénavant entre nous baguette télescopique. Quand je vais m'acheter une baguette télescopique, personne n'aurait vu ma baguette télescopique, on sait de quoi il s'agit. Si on fait une convention en tout maintenant qu'on appelle cela cocorico, peu importe l'appellation, ce qu'il faut c'est qu'on s'entende, qu'on se comprenne. Quand je dis cocorico, tu ne m'appelles pas une poule, tu m'amènes une baguette télescopique, et vice-versa. Notre affirmation est la suivante, c'est qu'en langue sainte, le Lashon HaKodesh, ce n'est pas la même chose. Dieu ne fait pas de convention. Dieu ne va pas parler une langue arbitraire où les sons que Dieu utilise sont arbitrairement choisis. Dieu va appeler une chose par ce qu'il est. Ça veut dire que le nom exprime la chose. En linguistique, on dira qu'il y aura une adéquation, une relation intrinsèque entre le signifiant et le signifié. Le signifié, c'est l'objet. Le signifiant, c'est l'appellation. Dans toutes les langues, il n'y a aucune adéquation entre le signifiant et le signifié. Il n'y a aucune raison que le signifiant exprime dans les lettres utilisées pour dire le mot, il y a aucune raison. On voit en rien le nom qu'on veut signifier, l'objet qu'on veut signifier. Il n'y a pas d'adéquation entre le nom, le signifiant et l'objet. En Lashon HaKodesh, normalement je dirais l'hébreu, c'est plus facile pour moi, en hébreu, donc Lashon HaKodesh, il y a une adéquation complète, c'est-à-dire que Dieu va appeler l'objet par son nom. Comment ça se passe plus profondément? On a vu déjà que Dieu crée le monde par la parole. Alors, petits enfants s'imaginent que, et donc c'est des grands enfants de 20, 30 et 40 ans qui s'imaginent que Dieu il a une barbe et une bouche. Quand on parle de Dieu, on toujours un peu imaginer, au moment une lumière, quelque chose. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut par exemple. Alors tout à coup, une voix est sortie au-dessus de la barbe, ou de cette lumière, d'accord? Et la voix s'est propagée dans l'univers intersidéral, et d'un coup, plouc, il y a eu de l'eau. Il y a eu de la lumière qui est arrivée. Alors, c'est complètement faux. Il n'y a ni barbe, ni bouche, ni langue, ni dents, ni lumière. Dieu n'a pas de forme, ni forme de lumière, ni rien du tout. Quand Dieu parle, qu'est-ce que cela signifie? Comme nous parlons pour toujours exprimer ou bien ce que nous désirons ou bien ce que nous pensons. Tu parles toujours pour ces deux choses-là. Une de ces deux ou les deux. Ou pour dire ce que tu désires, ton envie, ou pour dire ce que tu penses. C'est une expression. Comment on dit en français expression? Il y a le suffixe ex. Ex veut dire sortir à l'extérieur. Je vais exprimer, je vais ce qui est à l'intérieur, je vais le sortir à l'extérieur. Dieu, avant de créer le monde aussi, il a une volonté, il a un désir, c'est un but. Il a une pensée, c'est un comment. La troisième étape sera l'expression de son but et de sa pensée, la réalisation, le passage entre la pensée et le désir qui sont au niveau potentiel, au niveau réel, l'application réelle, la réalisation de ce qu'il avait en pensée et en désir se réalise. C'est ce qu'on appelle parole. Ce n'est pas qu'il y a de la voix. Il n'y a pas de voix. Il y a une réalisation de la pensée de Dieu et du désir de Dieu. C'est pour ça qu'en hébreu, en Lachon HaKodesh, comment est-ce que nous appelons objet? Comment on dit objet? Davar. Davar. Davar signifie en hébreu objet, signifie aussi quoi en hébreu? Parole. Elo Dvarim, commence le livre de Dvarim, le cinquième livre de la Torah. Elo Dvarim, Hachem dit bien Moshe. Voici les paroles qu'a dit Moshe. Davar, c'est à la fois parole, à la fois chose. Pourquoi? Parce que effectivement, toutes les choses sont des paroles. Toutes les choses qui nous entourent, ce sont des paroles. Ça veut dire quoi? Ce sont des réalisations, des réalités du désir, de la pensée de Dieu. Il n'y a rien dans le monde qui aurait pu être si Dieu ne l'avait pas pensé, ne l'avait pas désiré. Dieu a désiré, Dieu l'a pensé, il fallait encore le réaliser. Réalisation égale parole. Donc tu as maintenant des paroles. Nous sommes tous une parole. Yeshiva, une vraie cacophonie. Tu rentres dans le Beth Midrash, tu entends une cacophonie terrible. C'est toutes tes paroles, d'accord? C'est tous les gens qui sont là, toute la réalité qu'il y a ici, ce sont des paroles de Dieu. Deuxième terme qu'on dit en hébreu pour dire objet, chefetz. Chefetz signifie objet en hébreu. Que signifie le mot chefetz aussi en hébreu, synonyme du mot
désir.
Nous sommes entourés de désir. Chacun, il est la réalisation d'un désir de Dieu. Dieu a désiré que toi tu sois, que toi tu sois, que la table soit, que le rétroprojecteur soit, que la baguette soit, que l'air soit, d'accord? Toutes les choses qu'il y a dans la réalité sont des désirs de Dieu. Donc on appelle cela chefetz, ou davar, ou parole, ou désir. Comment cela se passe plus profondément? En Lachon HaKodesh, il y a 22 lettres. Ces 22 lettres, ce sont 22 forces divines. Dieu veut, mais Dieu va créer le monde. Sa parole, donc on va dire son désir, sa pensée, va s'exprimer par 22 forces différentes. Et Dieu va combiner ces forces ensemble, de façon différente chaque fois, pour réaliser une chose différente. Dieu voudra, par exemple, créer un arbre. Etz, en Lachon HaKodesh, en hébreu, Etz, c'est l'arbre. Comment il va faire? Alors, il va utiliser deux forces. La force Aïn et la force Tzadik. Il y a 22 forces, il y a 22 lettres en hébreu qui correspondent aux 22 forces. Il va utiliser la force Aïn, la force Tzadik. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit lettre en hébreu? On dit Ot. Ça veut dire quoi, Ot, en hébreu aussi?
Signe.
Signe. Pourquoi est-ce que la lettre égale signe? Parce qu'elle vient, c'est un signe, c'est pas la chose. Un signe, c'est le signe d'une autre chose. Le signe vient toujours signifier, c'est un signe d'une autre chose. Quelle autre chose? La lettre est un signe d'une force divine. Aleph correspond à la force divine. Aleph, Bet à la force divine. Bet, etc., etc. Quand nous avons en Lachon HaKodesh un mot, par exemple, Etz, l'arbre, ça signifie que cet arbre-là était la combinaison de deux forces divines. La force divine Aïn, la force divine Tzadik. Dieu les a combinés dans cet ordre-là, d'abord Aïn et après Tzadik. Ça a créé l'arbre. Ça veut dire que l'arbre n'est pas appelé Etz, comme ça, de façon arbitraire. Il y a ici une réalité. Le nom exprime ce qu'il est. Il ne peut que être Aïn ou Tzadik. Sinon, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Bien sûr, dire une chose pareille, c'est extrêmement osé. C'est pas arbitraire, mais c'est très osé. On va, avec l'aide de Dieu, où se court le prochain setback, on y arrivera. On va prouver cela de façon très très claire. Et nous sommes la seule langue au monde qui a donc cette relation intrinsèque, c'est adéquation entre signifiant et signifié. Ça veut dire que, théoriquement, et je vous le dis bien théoriquement, si je veux maintenant enseigner l'hébreu à un chinois, on va dire d'abord si je veux enseigner le français à un chinois, qu'est-ce que je dois faire? Alors je dois enseigner au chinois tout le vocabulaire français, au moins quelques milliers de mots, la prononciation de chaque lettre, avec le bon accent, parce qu'en chinois, c'est un peu dur de prendre l'accent. Il y a l'accent aigu, accent grave, accent circonflexe, parce que c'est des accents différents. C'est très dur pour un chinois d'arriver à dire cela bien, bien comme il faut. Pour un israélien aussi, tu vois, les israéliens, ils sont incommunicables. Il y a le on, on, en, 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 an, un, un, ou in. Ils parlent la tête complètement, d'accord? C'est très, très difficile. Alors aussi, pour un chinois, il faut lui enseigner tout cela. Ou peut-être pour eux, c'est un peu plus facile. Ching, chang, ils sont un peu habitués. Mais en hébreu, c'est beaucoup plus dur ici en hébreu. Il faut lui enseigner donc toute la syntaxe, tout le vocabulaire, toute la grammaire, toutes les lois de conjugaison. Et à la fin, notre bonhomme chinois, il sait parler le français. Théoriquement, et je ressouligne bien théoriquement, pour enseigner la Lachon HaKodesh à un chinois, c'est pas compliqué. Il faut lui enseigner le sens des 22 lettres. Le sens des 10 voyelles. Il y a 10 voyelles. L'ordre. Et lorsque ce chinois verra un mot qu'il n'a jamais vu auparavant de sa vie. En hébreu, il voit par exemple le mot etz dont on a parlé maintenant, l'arbre. Il prend, il sait ein. Etz, c'est donc combinaison de deux forces, la force ein, la force tzadik. Il sait, je vais expliquer bien, c'est quoi le sens de la lettre ein. Ça correspond à quelle force exactement, qu'est-ce que c'est comme force divine. Quelle réalité correspond le ein. Il connaît la réalité de la lettre tzadik, il combine les deux, il me dit, certainement, ce mot-là signifie arbre. Il ne l'a jamais appris par cœur. Il le sait en voyant les lettres. Pourquoi ce n'est que théorique et non pratique? Parce que pour connaître de façon totale, complète et profonde le sens des lettres, c'est impossible aujourd'hui. Parce que très rapidement, dans le sens des lettres, nous allons arriver dans les essences profondes de la création. Il faut comprendre que le nom d'une chose va évoquer sa finalité. Qu'est-ce que c'est? Et le nom que Dieu a donné à la chose, c'est donc qu'est-ce que c'est dans son but divin, ce que Dieu voulait maintenant de l'arbre, dans le plan de la réalité des arbres de l'univers, pour arriver à la finalité de l'univers. Donc on parle toujours extrêmement profonde. Qu'est-ce que Dieu voulait des arbres? Pourquoi le monde existe? Pourquoi est-ce qu'il y a des végétaux? Quels sont les végétaux? En quoi ça sert à Dieu dans les buts finaux qu'il a de cette création? Donc très rapidement, on arrive à des choses extrêmement profond. Néanmoins, comme promis, on fera une démonstration en utilisant les verbes, c'est plus simple, on va expliquer aussi pourquoi la prochaine fois, et nous pourrons faire une démonstration comme quoi effectivement ça marche. Simplement, il faut savoir que connaître de façon totale le sens des lettres, aujourd'hui c'est impossible, parce que trop rapidement tu arrives dans les secrets de la mystique juive, et tu n'as pas aujourd'hui de kabbaliste qui soit capable de connaître cela comme il le faut, c'est beaucoup, beaucoup trop profond. Néanmoins, on peut nous un peu voir, un tout petit peu, et on va commencer à étudier un peu ces choses-là. Alors quelles sont... D'où nous pouvons apprendre le sens des lettres juives. Il y a quatre sources. Quatre sources qui vont nous indiquer le sens des lettres. Très souvent, nous verrons que chaque source va donner un sens différent pour la même lettre. Mais en fait, en grattant un peu plus, en approfondissant, nous verrons que les quatre sens qui ont l'air à prime abord tout à fait différents convergent tous vers le même point. Parce qu'une entité, elle a plusieurs facettes, et ce sont plusieurs facettes différentes de la même entité. Simplement, il faut bien définir de quelle entité il s'agit. On va donner quelques exemples. Alors, quelles sont les quatre sources qui vont nous indiquer le sens des lettres juives? Première source que nous avons, c'est la première fois où nous verrons dans la Torah, la source de tout, c'est la Torah, la première fois où nous verrons dans la Torah, la lettre qui nous intéresse en tête de mot. C'est pas pour rien, la tête, toujours, elle a une primauté par rapport au reste des lettres d'un mot. La première lettre, elle a une importance. La première fois où je verrai la lettre qui m'intéresse en tête de mot, ce mot-là m'indique le sens de la lettre. Alors, si je vous dis maintenant, par exemple, la première fois où on verra la lettre bête en tête de mot dans la Torah, c'est dans quel mot? Et tout le monde dit faux. Bara. Pourquoi pas Bereshit? Parce que Bereshit, c'est... C'est la contraction de deux, c'est un préfixe. B, c'est O, au début, d'accord? O, B, Réchit, début. O, le O, ça compte pour rien. La première fois que nous verrons la lettre Resh en tête de mot dans la Torah, c'est dans le mot Réchit de Bereshit. Très bien. La première fois nous verrons la lettre B, bête en tête de mot dans la Torah, c'est dans le mot Bara. La première fois nous verrons la lettre Aleph en tête de mot dans la Torah, Elohim, Shin, Shamaim, etc. Voici ici la liste des... On va montrer, j'espère que ça apparaît sur l'écran. Trop près, un peu, trop près. Et tiens, attends, on va mettre ça un peu en arrière. C'est bon, ça ira. Donc voici ici la liste des 12 lettres de l'alphabet. On voit quelque chose? Choum d'avant. Bon. Tu as Aleph, Elohim, Bet, Bara, Gimel, Gdolim, Dalet, Deshe, etc. Il y aura même des mots qui apparaissent très loin dans le mot. Le mot qui apparaît le plus loin dans la Torah, c'est le mot qui représente la lettre Vav. Vav, ouais, ouais. Vav. La première fois que nous verrons la lettre Vav en tête de mot, la lettre Vav en elle-même, on la voit très souvent en tête de mot, mais c'est dans c'est la préposition « et ». Vav, c'est « et » en hébreu, donc ça ne compte pas. Nous voulons un mot qui, dans le nom lui-même, commence par la lettre Vav. Presque le seul mot qu'on a en hébreu qui commence par la lettre Vav, c'est le mot Vav. Vav qui signifie crochet. On verra que Vav, vous pouvez allumer la lumière, je pense que c'est bon. Vav, c'est Nous verrons peut-être plus tard le sens d'Ervav, c'est tout ce qui unit. Unit. Alors vous verrez que lorsqu'on... Vav, c'est l'union de deux choses. Comment on prononce Vav? Vv. Vv. Même au niveau de la prononciation, c'est si tu fermes, il n'y a plus deux choses, il n'y a plus qu'une chose. Si tu ouvres, c'est séparé. Quand je dis il y a deux choses qui sont en train de s'unir, c'est Vv. Vv. Je rapproche les deux lettres, les deux lèvres ensemble, et je fais passer un peu de souffle pour la lettre Vav. Vav, c'est fait, ça va unir. Le crochet qui servait à unir les différents pans, le pan de tissu qui recouvrait le sanctuaire. Bon, c'est bon comme ça? Ok. Deuxième source qui va nous indiquer le sens des lettres, c'est le nom de la lettre. En français, en anglais, les lettres n'ont pas de nom, elles expriment un son. A, B, C, D, c'est pas un nom, c'est un son. En hébreu, A, on le dit Aleph. C'est pas pour rien. B, on le dit bet. C'est pas pour rien. G, on le dit gimel. D, dalet. Hey, hey, v, vav, z, zain, chaque lettre a un nom. C'est pas pour rien. Il n'y a rien qui est pour rien. Donc, le nom, certainement, va m'indiquer le sens de la lettre. Après, on fera une démonstration avec une lettre de l'alphabet, ou deux, trois, pour que ce jour, je vais faire donc travail pratique. On va voir pratiquement comment ça marche. Troisième source qui va nous indiquer le sens des lettres, c'est la loi orale. Donc notre Torah, elle est écrite, mais elle est aussi surtout orale. La Gemara, dans le traité Shabbat, page 104, là-bas, elle cite les 22 lettres de l'alphabet et va expliquer pour chacune des lettres à quoi correspond cette lettre. On aura aussi un Midrash écrit il y a 2000 ans par Rabbi Akiva, auteur de Rabbi Akiva, les lettres de Rabbi Akiva. C'est un très vieux Midrash qui va expliquer le sens des lettres. Et enfin, la science ésotérique, la mystique juive, la Kabbalah, principalement le livre de Zohar, du Zohar, qui va expliquer le sens des lettres. Et là, on rentre dans les grandes profondeurs de la Torah. Comme je dis, aucun aujourd'hui ne peut, ne sait quel est vraiment le sens profond des lettres, parce que trop rapidement, on arrive à Dieu lui-même. D'accord? Et qui peut dire, moi, je comprends ce qui se passe là-haut, personne ne comprend, celui qui dit qu'il comprend, c'est un charlatan, comme il y en a beaucoup sur le marché. Donc voici les quatre sources qui vont indiquer le sens des lettres. On va faire une démonstration maintenant avec la lettre Aleph. Alors, la lettre Aleph. Première fois, nous verrons la lettre Aleph dans la Torah, c'est dans quel mot? Elohim, Dieu. Ça correspond bien à sa valeur numérique. Vous savez qu'en hébreu, les lettres ont une valeur numérique. On n'a pas de chiffres. Les chiffres 1, 2, 3, 4 sont des chiffres arabes. Ça fait pas mal de temps qu'on n'est pas en très bonne relation avec le monde arabe. Donc, les chiffres arabes, on n'a pas utilisé. On a la numérotation juive depuis des millénaires. La numérotation juive, il n'y a pas de chiffres en hébreu. Les lettres vont exprimer les chiffres. Aleph correspond à la lettre 1. D'ailleurs, je crois, voilà, ici j'ai un... Je vous le montre, voilà. Ici, on voit clairement. Alors, Aleph égale 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, Hey 5. Après, on passe à Yud c'est 10. Après, on passe aux dizaines. Kaf, c'est 20. Lamet, 30, Mem, etc. Après, on finit avec les dernières de l'alphabet. Kouvre, Shintef, ça fait 100, 200, 300, 400. La dernière de l'alphabet, c'est 400. On a encore 5 lettres finales. Même Nun Tzadik Pe Kaf final, même Sophit Pe Nun Sophit comme nous appelons en hébreu, qui ont aussi une valeur numérique. 500, 600, 700, 800, 900, et on finit avec Aleph aussi qui est 1000. Aleph vaut à la fois 1, vaut à la fois 1000. En cela d'ailleurs il ressemble à la divinité, parce que Dieu il est 1, mais il est 1000 aussi. Pourquoi il est 1000? 1000 c'est quoi? Quelle différence qu'il y a entre 999 et 1000? Vous me direz 1. Je ne parle pas maintenant de la différence mathématique, je parle de la différence philosophique. Quelle différence il y a entre un chiffre comme 999 ou 898, d'accord? 1000, c'est un chiffre rond, un chiffre entier. Pourquoi on dit il est rond? Il n'est pas rond. Tu regardes, est-ce que le 1000 il est rond? C'est une barre et trois ronds, ce n'est pas un rond. Parce que l'idée de rondeur, elle évoque, c'est une connotation au niveau philosophique de totalité, de globalité. Dieu, il est la totalité de tout. On dit, Marabou Ma'asecha Hashem, combien sont nombreuses tes actions? Dieu, Kulam Bechormasita, toutes les a fait avec sagesse. C'est-à-dire, il y a plusieurs, des milliers, des milliards de choses qui sont dans le monde. Tellement de végétaux, tellement d'étoiles, tellement de moustiques, tellement de... Mais toutes ont été faites par un. C'est-à-dire que Dieu se dévoile, il est de son unité, mais on aura aussi l'unité dans la pluralité, une globalité. Dieu dans la pluralité, on voit son unité dans la globalité aussi, dans Dans tous les détails, on revoit la grandeur de Dieu. Donc Dieu est à la fois un, à la fois mille. Comment est-ce qu'on écrit la lettre Aleph? Je crois que vous pouvez voir quelque chose sur l'écran. On voit quelque chose? Toujours pas? Ok. Alors, il dérange? Bon, on peut faire un peu tordu comme ça. C'est mieux comme ça? Très bien. Alors, Aleph s'écrit une barre, c'est un vav, avec un yud au-dessus à l'endroit, un yud au-dessous à l'envers. Valeur numérique du vav, c'est combien? 6? 10. 10, combien ça fait? 26. Égalons de Dieu, que je n'ai pas écrit, c'est qu'on n'a pas le droit de l'écrire. Yud, et puis hey, et puis vav, et puis hey. Le nom ineffable, le nom de Dieu, s'écrit ainsi. Yud, et puis hey, et puis vav, et puis hey. Valeur numérique 26, représentée dans la forme de la lettre Aleph. Maintenant, Aleph, cette lettre-là, on l'exprime Aleph. Aleph, comment on l'écrit? Je n'ai pas écrit ici, je vais l'écrire là. Ici, très bien. Aleph. Valeur numérique de la lettre Aleph, combien? 1. Lamed, 30. P, 80, tout ça fait 111. 1 à tous les niveaux. 1 au niveau des unités. 1 au niveau des dizaines, 1 au niveau des centaines, 1 au niveau des milliers. Le nom, Aleph, Aleph, Aleph. D'accord? En hébreu, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes. Les lettres sont que des consonnes. Les voyelles, ce sont des points. Donc quand je dis Aleph ou je dis Aleph, ça revient strictement au même. C'est la même lettre exactement. C'est les mêmes consonnes que nous avons pour dire Aleph ou pour dire Aleph. Donc c'est 1 et c'est 1000. Alors, on a vu d'abord, première fois nous voyons la lettre Aleph en tête de mon Torah, Elohim, Dieu. Dieu, on voit, il est 1, il est 1000, il est 1 dans tous les niveaux, unités, dizaines, centaines, milliers. On verra un verset dans le Tehillim qui dit la chose suivante. Alouf Neuraï Ata. Alouf Neuraï Ata. Tu es le champion de ma jeunesse. Alouf signifie champion. C'est quoi? On peut l'écrire avec ou sans une voyelle. Alouf. Qu'est-ce que signifie Alouf? Champion. C'est quoi un champion?
Le leader
dans une certaine discipline. Un champion de tennis, champion de pétanque, champion de...
C'est le vainqueur dans la pluralité, il a vaincu tout le monde.
C'est le plus fort dans une certaine discipline. Maintenant, le plus fort de tous les plus forts dans toutes les disciplines, qui c'est? C'est un champion. C'est un super champion. C'est qui? Dieu. Mais Dieu dans un certain attribut. Dieu, il a plusieurs noms. Le nom Elohim, quand on prononce le nom Elohim, c'est marqué dans Shulchan Aruch, dans le traité des lois juives, dans le chapitre 4, que lorsqu'on dit le mot Elohim, il faut penser Takif, Ba'al, Balakor, Tugulam, puissant, celui qui a toutes les forces et tous les pouvoirs. Elohim signifie en hébreu celui qui a tous les pouvoirs. El, les deux premières lettres de Aleph, Aleph Lamed, c'est aussi un des noms de Dieu, signifie force. On verra Lavan, on va lire ça exactement dans deux parachiotes. Il poursuit Yaakov et Dieu vient en rêve la nuit, lui dit, attention, ne touche pas un cheveu de Yaakov. Le lendemain, Lavan arrive, il rejoint Yaakov, lui dit, Yesh le El Yadi la Sotimachemra, j'ai le pouvoir de vous faire du mal. Mais ton Dieu s'est dévoilé cette nuit et m'a dit de ne pas te toucher, donc je ne te touche pas. Mais sache que j'ai le pouvoir de te faire du mal. Le pouvoir se dit elle. Elle est à Ar, c'est seigneur de la terre. Les gens qui ont de la puissance s'appellent Elle. Aïl aussi, c'est un bélier. Chaque fois qu'on parle de puissance, c'est le mot elle qui revient. Celui qui a toutes les puissances, Baal, Akorod, Kulam, le sens qu'il faut penser quand on dit Elohim, c'est elle au pluriel. Elohim. Dieu, c'est celui qui a toutes les forces. Quand on parle de Alouf Neuraïata, le roi David parle de Dieu en tant que Alouf, tu es le champion de ma jeunesse, tu es le champion, tu es celui qui a réuni en lui toutes les forces. Un attribut de Dieu, en tant que celui qui est maître de toutes les forces. Maintenant, on a vu aussi que le nom de la lettre évoquait le sens. Là, on a vu par rapport à la première fois, on voit son nom dans la Torah, Elohim. On voit le nom Alouf. Alouf signifie un champion, un premier. Aussi à l'armée, c'est un général, d'accord? Quelqu'un qui dirige, le dirigeant du monde. Il y a encore un autre aspect, ça on le voit dans la Gemara Shabbat 104, qui nous dit que la lettre Aleph vient du mot, comme on voit un verset, Va a Alephra Chochma. Je t'enseignerai la sagesse. Dieu en tant que source de sagesse. Va Alephra signifie je t'enseigne. on voit que c'est une conjugaison de la racine Aleph. Quand on apprend l'hébreu à Olé Hadash, un nouvel émigrant, il va apprendre l'hébreu où? À l'Ulpan. Ulpan, c'est les mêmes lettres Aleph, Lamed, P, Ulp, d'accord, Aleph, et tu rajoutes un Nun, c'est un substantif. Ulpan signifie enseigner. Les Aleph signifie enseigner. Dans la Gemara, tu la sens à ce mot. Il y a le Futa, Mina Yalif, d'où tu apprends cela, d'accord? Aleph signifie enseigner. Dieu entend que celui qui va m'enseigner à parler avec sagesse, celui qui me donne la sagesse. La sagesse, elle est où? Elle est d'origine divine. D'accord? On a la raison, chose que les animaux n'ont pas. En cela, nous sommes différents des animaux. On a la raison qui nous permet de connaître Dieu et de pouvoir enseigner Dieu, d'enseigner la sagesse sur terre. Mais cette sagesse, elle provient de Dieu. D'ailleurs, la lettre, le mot Aleph, enfin, le mot qui exprime la lettre Aleph, d'accord? Aleph, Aleph, comment on l'écrit? Aleph, lamed, P. Est-ce que je vais marquer ici, autre part? Je vous dis oralement. Aleph, lamed, P. Aleph, c'est quoi? Dieu. Lamed, c'est quoi? Apprendre, enseigner. Les lamed. P, la bouche. C'est quoi un sage? C'est celui qui parle de façon sensée, intelligente. Dieu lui a enseigné et il parle avec sagesse. Aleph, Dieu. Lamed, l'enseigne. P, la bouche, à parler avec sagesse. Aleph signifie Dieu en tant que celui qui nous enseigne à parler avec sagesse. Celui, la source de toute sagesse, de toute Torah, de tout enseignement, Aleph. Tu as Aleph, Dieu, en tant que source de toutes les forces, et tu as Dieu en tant que source de sagesse. Donc on voit qu'à tous les niveaux, au niveau de la forme de la lettre, au niveau de la valeur numérique de la lettre, au niveau de la prononciation de la lettre, au niveau de la première fois qu'on voit dans la Torah, au niveau de la loi orale, à tous les niveaux de la lettre Aleph, elle correspond à Dieu, mais dans des aspects différents. Une fois en tant que celui qui nous enseigne, une fois en tant que celui qui a la force, une fois en tant que celui qui est un, qui est mille, etc. Ok, c'était un exemple pour la lettre Aleph. On va aller directement, on va sauver quelques petites choses. Passons à la formation des mots. Les noms propres, on ne va pas en parler, parce que, comme je dis, les noms propres expriment d'habitude l'essence d'une chose, et pour comprendre le sens d'une chose, le sens profond d'une chose, on doit arriver trop rapidement aux choses ésotériques et trop cachées. On peut utiliser pour faire une démonstration comme on veut faire, l'exemple des verbes. Tous les verbes, en hébreu sans exception, ont une racine de trois lettres. Quand on a l'Ulpan, tu apprends l'hébreu, tu apprends que tous les verbes ont une racine de trois lettres. Donc, ces trois lettres sont en fait la combinaison de trois forces divines, de trois sens, et cette combinaison des trois sens donne le sens du verbe qui nous intéresse. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. On va prendre ici, pour illustrer cela, l'exemple du mot « nachal ». Nachal. Toujours pour trouver la racine d'un verbe, il faut prendre la troisième personne du singulier, passé. C'est ça qui te donne la racine du mot. Alors on a ici le mot qui s'appelle le mot nachal. Que signifie nachal? On a ce mot dans la Torah. Un bûcheron va avec sa hache couper du bois dans la forêt et le fer se détache de la hache et va et tombe et tue quelqu'un. C'est marqué « Nachal Habarzel » est tombé, le fer de la hache. Nous verrons que le mot « Nachal » est la combinaison de plusieurs sens. En fait, nous verrons qu'il y a des familles de sens. Les familles de sens sont les sens sont donnés par une lettre, mais lorsqu'on met deux lettres ensemble, ça va donner une famille de sens. Le mot « Nachal » est la combinaison de trois familles de sens. La famille de sens « Nunchin », les deux premiers mots. La famille de sens « Shin Lamed », les deux dernières lettres. Pardon, les deux premières lettres, les deux dernières lettres, et la famille Nun Lamed, qui est la combinaison de la première et la dernière lettre. Tu auras trois familles de sens. Tu as le sens Nun Shin, le sens Shin Lamed, le sens Nun Lamed. Le premier formé par première et deuxième lettre, le deuxième par le deuxième et troisième, et le troisième sens par première et troisième. C'est donc la combinaison de ces trois familles de sens. Quel est le sens de la famille Nun Shin? Tous les mots en hébreu, qui commence par Nun Shin, parle de tomber. On a par exemple le mot Nachar. Nachar. Mais, tomber en se détachant. C'est quoi Nachar? On dit les cheveux tombent. Je ne sais pas qui tombe. Quand je vois un cheveu qui tombe comme ça, je ne dis pas Nachar, je dis Nafal. Nachar veut dire qu'il a quitté mon crâne chevelu et il est tombé. On dit que les feuilles sont Noshrim. Alim, Noshrim. Les feuilles tombent, mais en se détachant. Donc le fait de se détacher, le fer de la hache, il se détache. Oui. Absolument, mais quand tu parles de nom propre, il faut faire attention de quoi on parle. C'est certain que Nesher, toujours il descend, c'est vraiment l'oiseau par excellence qui est en haut et se détache d'en haut et hop, il tombe sur sa proie. Mais encore une fois, quand on parle des noms propres, on doit arriver dans des considérations beaucoup plus profondes. On ne veut pas trop en parler. Ensuite, c'est la famille aussi, Nun Lamed, dans lequel nous avons en première et dernière lettre, Nafal, tous les mots en hébreu qui commencent par Nun finissent par Lamed, expriment l'idée de tomber. Nafal, parce que ça se détache, mais ça peut se détacher et monter, ça peut se détacher et tomber. Là, c'est tomber et ça tuer quelqu'un. Nahal, c'est quoi Nahal? C'est un courant d'eau qui descend. Nazal, ça a coulé. Très bien. On va voir tout de suite toute une famille entière. Ensuite, on a le mot. Les deux dernières lettres sont formées par la famille Kachal. En hébreu, les mots qui terminent par Shin Lamed sont dans le sens que Kachal. Kachal signifie quoi? Trébucher. Raté. Nirchalti. J'ai raté mon bac. Nirchalti. J'ai raté mon permis de conduire. Je me suis... j'ai trébuché. Je suis tombé, d'accord? En trébuchant. On parle ici d'une notion très importante qui est la notion qui est de façon non préméditée. Parce que si le bûcher, il prend la hache, d'accord, et il sait très bien qu'en donnant un petit coup comme ça, le fer de la hache va se détacher, il vise comme ça et hop, il tue quelqu'un, dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme homicide involontaire, il est considéré comme homicide involontaire, comme homicide volontaire, c'est un assassin. On parle de cette notion-là est très importante, Nachal la Barzel, on parle ici d'homicide involontaire, la sentence est tout à fait différente. L'homicide volontaire, c'est une certaine sentence, l'homicide involontaire, c'est une autre sentence. Le cadre dans lequel parle la Torah, et là tout le traité Makot, on parle beaucoup, on parle d'un cas involontaire. D'où on apprend que c'est involontaire, parce que dans le mot Nachal, tu as en substance, d'accord, dans les lettres, les deux dernières lettres te disent, on parle ici de trébuchement, ça a été fait de façon involontaire. Donc une chose qui se détache, qui tombe, et qui fait... un raté involontaire, c'est Nachal. Tu ne peux pas dire autrement cette notion-là qu'en disant le mot Nachal. Parce que ce n'est pas un mot qu'on a choisi comme ça arbitrairement. Ça fait partie d'une trame entière. Et toute la langue sainte, elle fonctionne ainsi. Si quelqu'un regarde profondément, c'est extraordinaire. Comment arriver avec 22 lettres, un choix de 22 lettres, des compositions de 3 lettres, arriver à dire tous les mots qui ont un sens sans qu'il y ait des contradictions ou des incohérences ou des sentiments, des explications équivoques. Tu arrives avec des combinaisons de 3 lettres sur 22 à dire tous les mots sans qu'il y ait chaque fois un mot. Tu n'as jamais un mot qui est inventé. Si le mot est dit ainsi, ça veut dire que c'est comme ça. Regardez comment ça se passe. Ici, sur quelques centaines de verbes, il y a ici environ 300 verbes. On aura des familles de verbes. Toutes les familles qu'on a verticales, c'est qu'on a pris les deux dernières lettres et on les a changées. Par exemple, ici, tu auras Pakar, Chakar, Bakar, Akar, Nakar, Dakar. Toutes les fois où tu changes la première lettre, ce sera la variante. Les deux dernières, c'est le nom de la famille. Donc, on a une famille, c'est un sens général. La première lettre qui est variante va donner un sens plus précis. Chaque lettre qui est variante donne, d'après le sens de cette lettre qui est la variante, va donner un sens plus précis. Lorsque tu déplaces ici horizontalement, c'est que tu auras changé la dernière lettre. La famille, elle est déterminée par les deux premières lettres, et tu changes la dernière. P, Resh, Ein, P, Resh, Kouf, P, Resh, Tzadik, toujours sur la famille P, Resh, et tu changes la dernière lettre. Et lorsqu'on se déplace obliquement, on aura ici notre famille d'ailleurs qui nous intéresse, qu'on vient de voir, la famille Nachal. Nachal. Tu as ici dans la famille Nachal, j'ai dans toute la famille les mêmes mots qui commencent par la variante et le milieu, et la lettre stable va être la première et dernière lettre. Alors on a Nahal, Nahal, Nazal, Nachal, Nafal, toujours c'est la lettre du milieu qui va changer, les deux premières, la première et la dernière qui vont rester là, le nom de la famille. Et c'est extraordinaire. Et que toi tu peux continuer à l'infini dans tous les verbes de la langue sainte, chaque verbe rentre dans une catégorie ici de sens. Ce sont des familles de sens. Tu ne peux pas avoir un mot en hébreu qui ne rentre pas là-dedans. C'est la seule langue au monde qui fonctionne comme ça. Maintenant, pour montrer que ce n'est pas arbitraire, on n'a pas le temps. À la prochaine fois, c'est l'heure ?
Non.
Il est 7 heures. Alors la prochaine fois, on va faire une démonstration, on prendra une des familles ici, on va définir bien le sens de deux des lettres, bien comprendre comment on définit leur sens, et on verra que c'est systématique avec, si on a deux lettres qui donnent une famille, on ne peut pas avoir de mots dans cette famille qui n'a pas ce sens aussi. Et on verra que c'est, on prendra une quinzaine de verbes qui proviennent de la même famille, on verra que c'est unique dans toutes les langues, seul en hébreu, en langue sainte, on pourra faire une démonstration comme quoi c'est pas une langue arbitraire, mais effectivement une langue essentielle. Baruch Adonai, Amen.